Ce soir, l'émission Raffarineuse et Raffarinante à 21h sur FR3 est à boycotter. Elle s'appelle La France face à la crise, avec comme vedette Monsieur Tartara Raffarin. Il va récupérer et donner son avis, bien sûr, sur la manifestation pour la défense des retraites qui a lieu aujourd'hui. Il est programmé à la place d'un film américain qui s'appelle Brannigan, avec John Wayne. Alors, selon une critique, c'était un flic américain qui remet de l'ordre à Londres. Ça pourrait être un justicier français qui remet de l'ordre dans les médias français. C'est un film de fin de carrière de John Wayne. Alors, toute ressemblance avec la réalité serait fortuite. Salut!
Merci à Arte hier soir d'avoir diffusé ce film sur les veuves de la guerre du Vietnam, ou de la guerre des Américains, comme les Vietnamiens la nomment. Ce film devrait passer en boucle à la place des bombardements. On a pu voir les abîmes de douleur dans les regards de ces femmes. On a entendu ces Vietnamiennes évoquer les femmes et les enfants américains dont le père ou le mari a été tué, mais rappeler que la guerre se déroulait sur leur terre et pas à des milliers de kilomètres. Une terre labourée par les chars, les tapis de bombes, dont la végétation a été détruite à grande échelle par l'arme chimique américaine. Une amie de retour du Vietnam me disait qu'elle n'a jamais entendu d'oiseaux là-bas. Les chants d'oiseaux, les malformations des enfants aujourd'hui, les forêts détruites, la douleur des personnes, tout ça n'entre pas dans les comptes de la superpuissance. Malheur aux vaincus, ça n'est même plus vrai quand on s'appelle États-Unis d'Amérique. Non, là, c'est le vainqueur qui paye plein pot. C'est le vaincu dont les crimes de guerre ne sont pas jugés qui triomphe. À tous les inconditionnels des USA, pleins de bonne conscience et de morale, qu'ils se souviennent que le Pentagone n'a pas d'amis, seulement des intérêts. C'est sans doute la nuance qu'il y a entre la démocratie des États-Unis et le totalitarisme de cette institution en son sein. Christian de Néron dans l'Ain.
Je viens d'entendre que le centre Simon Wiesenthal aux États-Unis avait déclaré que finalement la France était devenue véritablement vichysiste, puisque, semble-t-il, elle était, d'après eux, du côté de Saddam Hussein. Bon, moi, ça m'a quand même relativement, à la fois consterné, mais amusé. Est-ce qu'on pourrait avoir l'opinion du centre Simon Wiesenthal, puisqu'il me semble assez qualifié, sur la politique d'Israël et sur le sens moral de ce pays actuellement? Puis bon, une autre petite question qui, là, m'amuse, mais très peu finalement, les hélicoptères Apache, les fameux hélicoptères tueurs de chars, les Apache, qui les a génocidés, qui a tué la nation indienne? C'est pas par hasard les Américains. Oh, ça doit être de l'anti-américanisme. Salut, au revoir.
Je reviens sur l'émission d'avant-hier. Pour dire que je trouve répugnant cet appel à la haine contre les soi-disant mauvais Israéliens et cette apologie des Palestiniens. Or, si la Jordanie et l'Égypte ont fait la paix avec Israël, quel politicien palestinien est aujourd'hui capable de faire la paix? Israël ne peut la faire tout seul. À défaut de prêcher l'amour de l'OLP, dont le nom, à lui tout seul, annonce par organisation de libération de la Palestine la volonté de jeter les Juifs à la mer. Votre émission est un appel à la haine anti-israélienne et le fruit de l'ignorance et de la naïveté. Pour qui vous prenez-vous, Daniel Mermet, pour vous permettre tant d'injustice et tant de haine?
Oui, bonjour, et bien voilà, moi je m'appelle Brigitte, j'habite à Avignon, et il se trouve que je viens d'écouter aujourd'hui, on est le mercredi 2 avril, l'émission de Daniel à propos de la prison d'Avignon. Ben nous, moi je travaille en face de la prison, dans un endroit qui s'appelle La Manutention, où on fait du jazz, il y a du cinéma utopia hivernal. Et il se trouve que ça fait 7 ans que je suis là, et tous les ans, au printemps, je laisse les fenêtres ouvertes quand je travaille, et puis j'entends les détenus qui discutent avec leurs proches, et ce son-là, je me suis toujours dit, tiens, il aurait fallu faire une émission là-dessus, parce que moi, je me suis pas habituée, voilà. Et c'est un son, maintenant, qui va me manquer, puisqu'il n'y sera plus. Et le fait de savoir que cette prison, maintenant, est vide, ça fait tout drôle, quoi. On s'y est un peu habitué, mais ça fait quand même drôle. Donc, je me dis que, maintenant, dans la nouvelle prison, elle sera peut-être toute belle, toute jolie, j'en sais rien, toute propre, mais ben, il y aura peut-être plus la possibilité de se parler comme ça en dehors du parloir. Et il y en a peut-être pour qui ça va être difficile.
Salut, ici c'est General Electric, la plus belle entreprise du monde, comme chacun sait, qui licencie des syndicalistes. Donc bah, c'est un appel pour venir soutenir Nathalie qui va passer au Prud'homme vendredi matin. Tous ceux qui peuvent, qui habitent près de Versailles, c'est à partir de 9h au Palais de Justice, 5 place André Mignot. Donc voilà, c'est le cas de Nathalie contre General Electric, autant dire Nathalie contre le reste du monde. Donc ne la laissons pas toute seule. Et venez nombreux avec nous la soutenir, donc vendredi matin, le 4 avril. Au revoir.
Eh bien, je suis en direct de je ne sais où. Je ne vois rien, je ne sais rien, je ne comprends rien, et j'attends que ma rédaction à l'arrière me dise où je suis, ce qui se passe, ce que je dois penser, ce que je dois raconter pour faire de l'audience et bourrer le mou de ce tas de crétins que vous êtes. Bon, excusez-moi, j'ai cru entendre ça, mais c'est un rêve. J'ai fait un rêve en regardant la chaîne américaine Fox News et j'ai rêvé que le reporter sur le terrain avait une minute de lucidité, mais je crois que non, aucune lucidité, je crois qu'il y croit. Et c'est à pleurer. Les Américains vous assurent que Saddam Hussein était directement impliqué dans les attentats du 11 septembre. Ils croient ça à plus de 50%. La majorité des Américains pensent que l'un des pirates de l'air était un Irakien, ce qui était absolument faux. À la veille de la guerre, dans son discours, le président W. Bush évoque huit fois, le 11 septembre, et on l'a compris, la machine à décerveler marche à plein tube, et ça se sent et ça s'entend ici, sur la route de Bagdad. Oui, je suis sur la route de Bagdad, mais je vous ai expliqué, j'y vais à reculons, je pars du point de départ, mais j'y vais non pas à reculons, je pars du point de départ, c'est-à-dire le Ground Zero, c'est-à-dire New York City, car c'est de là que tout est parti. L'attentat du 11 septembre a donné des ailes aux faucons qui sont en train de réaliser leur rêve cinglé. Mais pourquoi nous les Français sommes si malins et pourquoi les Américains sont-ils aussi bêtes? Comment peuvent-ils à plus de 65% approuver une aventure aussi irresponsable? Eh bien hier soir on était à Staten Island, l'une des parties de New York City, et nous étions à une réunion de parents, de femmes et d'enfants de Marines. Ces Marines qui sont là-bas, au front. Et avec des photos, avec des larmes, avec des rubans jaunes qui vont devenir très populaires, ces rubans jaunes, qui sont le symbole de l'attente. J'attends qu'il revienne, et quand il reviendra, eh bien, on détachera le ruban jaune. Eh bien, comment ne pas soutenir ces familles, hein? Comment ne pas soutenir nos troupes, nos petits gars? Comment oublier que ceux qui aujourd'hui brûle le drapeau américain, comme on nous l'a expliqué. Ceux qui aujourd'hui brûlent le drapeau américain peuvent le faire parce que des petits gars comme nos enfants se sont battus pour qu'on puisse brûler le drapeau, pour cette liberté, et ils sont morts pour ça. Et il y avait parmi les femmes qui étaient là, une femme d'un certain âge, qui nous a raconté très simplement, très modestement, que son frère aîné est mort en France, à Saint-Lô, en France, et que c'est la raison pour laquelle son petit-fils s'est engagé dans les Marines, pour cette histoire-là. Ah, c'est plus si simple. On voit que l'émotion, lorsqu'on est prêt, l'émotion travaille l'opinion. Et c'est sur cette émotion qu'évidemment George Bush peut continuer de conduire sa politique. Pendant combien de temps nos amis américains vont-ils se laisser berner par cette propagande? Faudra-t-il attendre longtemps pour qu'une nouvelle Jane Fonda, souvenez-vous de Jane Fonda en 1972 à Hanoï, comment elle intervenait pour que cessent les bombardements sur le Vietnam. Ça arrivera peut-être, il y a des signes avant-coureur, par exemple, cet intellectuel qui nous dit « George Bush s'est rendu coupable d'une agression non provoquée », faut-il lui rappeler que c'est entre autres pour cela que les dirigeants nazis ont été jugés à Nuremberg. Parce que ce son de cloche-là, on l'entend. Et on l'entend beaucoup. Dans quelques instants, nous allons à une manif justement devant le siège de Fox News. Voilà, c'était des nouvelles sur la route de Bagdad, en direct sur la route de Bagdad, c'est-à-dire à New York City. Pendant ce temps-là, dans la base, si j'y suis, sur France Inter, je vous propose de retourner très très loin d'ici, mais alors vraiment très très loin, dans des endroits du monde dont on ne parle plus, dont on ne parle jamais, c'est-à-dire l'Afrique. L'Afrique noire, et on va retourner au Bénin, à Cotonou, le quartier latin de l'Afrique. C'était une balade qu'on avait faite avec l'ami Guive, et je vous propose d'y retourner dès aujourd'hui.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guive Anctil. Là-bas, si j'y suis, au Bénin.
Flight number 2, arriving from...
Deux lumières dans la nuit à Cotonou, dans le quartier de Plakodi. Deux lumières proches en forme de fable. Une image fable pour commencer ce voyage au Bénin. Sur une chaise, une télé. Ah, personne ne regarde. Si, un gars accroupi qui se sert de la lumière de la télé pour réparer un gros pneu. Il est réparateur de pneus. Et la lumière de la télé, c'est pratique finalement pour coller les rustines. Voilà pour la première lumière dans cette nuit de Cotonou. Juste à côté, une autre lumière qui vacille, elle aussi, c'est la lueur d'une bougie. Au coin du mur, dans une cuvette d'émail bleue, pleine du sang rouge d'un poulet, un initié au vaudou est en train de baigner dans le sang des fétiches, c'est-à-dire des statuettes. Et il fait des incantations à voix basse. Voilà, deux lumières dans la nuit de Cotonou, Bénin, ex-Dahomey. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous habitons une terre de contraste. Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre modernité et tradition. Ça veut dire qu'il y a un fossé entre les civilisations. Ça veut dire que le dialogue est impossible. Ça veut dire qu'il y aurait une sorte de fracture mondiale. Peut-être que vu de là-bas, on se comprendra. En route, pour une Afrique non pas souffrante, celle des charniers, non pas exotique, folklore, magique, masque nègre en forme de parapluie, non pas une Afrique terrain de nos petites expériences exotiques, charitables et généreuses. Non, c'est Afrique dont on revient avec l'énergie, avec la vie, avec la jubilation, malgré tout, de vivre et d'en être jusqu'au plafond. Tout ce dont l'idéologie de domination et donc de culpabilité dont nous sommes imprégnés jusqu'à l'os nous a empêchés de voir, d'aimer et de partager. C'est vers cette Afrique-là que nous partons sur France Inter, là-bas si j'y suis, au Bénin.
Africano. chere Edo na nyo ata koko daki Edo na nyo nuto mito na nyo Edo misi
Ate mono we baka masi Ate mono we baka masi Ate mono we baka masi
Des mobs comme celle-là, il y en a 30 000 dans Cotonou. Ouais, ce sont des taxis, des petites motos taxis. Ça roule dans tous les sens, c'est pratique, c'est pas cher, ça transporte tout partout. Les gars portent des blouses jaunes avec un numéro d'immatriculation imprimé dans le dos. Petit boulot, grande débrouille, ça transporte tout. Du fonctionnaire sec à la mama bien en chair avec 3 tonnes de mangue, de bananes, de chèvres et de poulet sur la tête, ou bien alors le genou branché, visière en arrière, avec sa radio sous le bras qui crache Jonas Pedro ou Angélique Kidjo ou Africando. Ici on adore, quoi non, la salsa. Eh oui, on adore cette musique. Alors évidemment ces mobs, ces moteurs à deux temps, ces taxis-motos font une pollution d'enfer, ça pollue terriblement, surtout quand le temps est humide et chaud, comme les putes de Jonquet, ou bien rêche, quand souffle l'harmattan et que tout est rouge poussière sur la lagune. Les arbres sont si rouges alors qu'on raconte que c'est le sang des morts, ce rouge. Les âmes des morts descendent d'Abomey par le fleuve Ouémé pour gagner la mer, et chaque mort passant dans la lagune laisse un peu de son sang qui va rougir les écorces. Cotonou, c'est la lagune des morts. Vous avez vu, on est passé en une minute des mobilettes, de la circulation, de la vie de la ville à tout de suite au sacré. Eh bien, c'est la même chose. La mobilette n'est pas profane. La télé n'est pas profane. Tout est sacré. Rien ici n'est inanimé. Tout est animé. Animé, c'est l'âme. Anima. Anima, c'est l'âme. Donc, rien n'est animé. Pourquoi on est au Bénin? Oui, c'est pour le vaudou, pour essayer de piger cette force extraordinaire qu'est le vaudou. 50 millions d'hommes, de femmes, d'enfants à travers le monde sont concernés par le vaudou. Le vaudou est parti d'ici, est parti du Bénin avec les esclaves, par la côte des esclaves où nous irons. Le golfe de Guinée, c'est la côte des esclaves. On ira à Ouida, on ira à Porto Novo, et ces malheureux esclaves sont partis vers la Caraïbe, vers les Amériques, emportant ce culte, cette religion, parce que c'est une religion, avec eux. Mais avant d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, ce qu'on croit, ce qu'on imagine, ce avec quoi on rigole tous les jours, ce qu'on respecte, les relations avec les ancêtres, les relations de l'homme avec l'univers, avec les autres, avec lui-même, tout ce que le vaudou a apporté, apporte comme réponse aux énigmes, comme toutes les autres religions, mais celle-là nous intéresse puisque nous sommes ici. Et nous sommes ici parce que ça nous intéresse. On va d'abord voir dans la vie quotidienne. On va au stade de Cotonou. S'il y a une chose que les Béninois, comme tous les Africains, adorent évidemment, c'est le foot. Et là, c'est un petit match, tranquille, un après-midi, comme ça, les tribunes sont à moitié pleines seulement. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ça marche. Les fétiches, les gris-gris, les sorciers, le rôle du vaudou dans une chose aussi quotidienne que le foot. Voilà monsieur Asino qui se trouve là. Il est superbe, il est souriant, il est entraîneur, il fut gardien de but, il est entraîneur, non seulement entraîneur, mais il est également, figurez-vous, agent de police.
Là, il y a les dragons qui sont en orange noir.
Ouais.
Ce sont eux qui prennent la balle là. Ouais. Et les verts et blancs, c'est les postels.
Postel, c'est quoi?
L'équipe de la Poste.
À Poste Téléphone. Donc c'est un match qui compte pour quoi? Poste Téléphone
pour,
contre
non, la Poste, pour le championnat national.
Ah, mais c'est important alors.
Ouais. C'est parce que là, il y a eu une faute sur un joueur et le public désapprouve l'attitude. Ah oui, c'est une grande passion pour nous.
Racontez-moi comment vous préparez un match de foot ici, à côté.
Bon, en dehors de l'entraînement, qui est la préparation normale d'un match.
Ouais, ouais.
Bon, psychologiquement, et certains ont bien besoin et d'un autre soutien. Et ce soutien, on l'appelle parfois chez nous le beau, c'est le gris-gris, quoi. Et dès qu'on a un match, bon, les vieux vous préparent le match en vous disant si vous avez tel produit sur le corps, vous ne serez pas blessé, par exemple. Vous aurez beaucoup de chance. Vous tirez et vous gagnez le premier. Ou bien on tire vers votre poteau. L'adversaire qui veut tirer dans votre poteau voit le poteau, mais laisse qu'il finisse de tirer et tire à côté.
Alors, on m'a dit, par exemple, que on pouvait, il arrivait qu'on transporte toutes les chaussures.
Oui, vers un charlatan. On transporte toutes les chaussures, on les expose quelque part. Les maillots également, on les met là. Il met peut-être quelques poudres. Il met
les chaussures.
Aussi les chaussures. Il peut mettre il peut bénir ça de quelques os. Et il prononce des incantations là-dessus. Dès que le joueur prend ses chaussures, il pense que c'est des chaussures. Et qui lui donne un peu plus de force.
Ah, comme s'il y avait des ailes après les chaussures.
Voilà.
Ah.
Donc, bon, je crois que...
Il va courir plus vite.
Il va courir plus vite.
Plus de précision.
Il va cogner peut-être son adversaire. L'adversaire tombe et lui, il s'en va. Parce que il y a plein de trucs comme ça en Afrique. Dans le bon vieux temps, et pendant que moi j'étais encore gardien, j'avais un guérisseur qui m'avait donné une aiguille. Dès que vous rentrez dans un poteau,
dans un but,
dans vos 7 mètres en deux, vous enfoncez l'aiguille et au côté gauche, à côté du montant gauche. Ça multiplie vos chances. C'est comme si vous attirez la balle vers vous. Et ça permettait quand même, en ce moment-là, de faire beaucoup d'exploits. Mais dès que vous connaissez l'aiguille, par exemple,
ouais,
qui fait ça.
Ouais.
Il y a peut-être un autre qui connaît un produit qui jeté dans ce poteau-là anéantit l'action de l'aiguille. Et vous revenez à égalité.
0-0.
0-0.
Alors, dans les tribunes, les oui, supporters, eux aussi, ils ont des choses magiques. Qu'est-ce qu'ils font?
Bon, vous constaterez sur certains terrains, il y a des sectes, de groupes de féticheurs qu'on amène au terrain et qui viennent comme des supporters. Le groupe de féticheurs arrive,
ouais,
avec leur tam-tam sacré,
ouais,
avec les paroles sacrées, les chansons sacrées.
Ouais.
Et ils viennent chanter ça au stade et cela remonte le moral à tous ceux qui y croient.
Aux supporters.
Aux supporters et aux joueurs.
Et aux joueurs.
Oui, les gens trouvent que vraiment si tout ça là est mis en branle, c'est que la victoire est de notre côté.
Ouais. Alors, est-ce que ces féticheurs-là peuvent jeter des sorts pendant le match? Est-ce qu'ils peuvent jeter des sorts comme ça au...
Directement, c'est difficile.
Pourquoi c'est difficile?
C'est difficile parce que celui qui est en train de jeter le sort, lui aussi, il craint les revers de ce sort-là. Donc, il ne jette pas n'importe comment. Le gris-gris est forcément important en ce sens que nous sommes tous issus de familles ayant ça ayant ça à l'origine.
Bien sûr.
Le gris-gris. Bon, donc, comme, quand vous voulez jouer, on va vous dire, pour vous maintenir en forme, pour avoir de chance, pour éviter que votre équipe ait des comportements incorrects, on peut vous faire certaines choses pour que vous puissiez aller à ces matchs-là. Mais beaucoup plus maintenant, c'est ça. Ce n'est plus pour aller forcément gagner. Sinon, nous avions dit, les charlatans auraient créé leur équipe et auraient pu gagner des matchs. Mais, vous savez, l'équipe n'est pas seulement que les joueurs et l'entraîneur. Il y a les dirigeants.
Ah,
et qui ont une honorabilité à défendre. Et cette honorabilité les amène à faire des choses à l'insu parfois des joueurs.
Par
nous avons chez nous, par exemple, quelque chose que nous appelons le tchakatou. Ça, c'est tout comme un fusil invisible. Ah. Un fusil invisible. Et vous êtes en train de jouer, celui qui est et maître de ce
chakakatu
peut, à distance, vous neutraliser. Il peut agir sur vous par des radiations que vous ne verrez pas. Bon, mais ça, comme vous ne pouvez pas savoir toujours comment l'autre s'est protégé, en l'envoyant, vous pourrez atteindre votre joueur.
Ah, c'est-à-dire que vous avez...
La cible peut changer.
Par exemple, vous avez un chakatu, et moi je me suis mis une sorte d'armure contre le chakatu.
Voilà. Dans ces conditions-là.
Donc ça peut rebondir.
Ça peut rebondir sur votre sur mon partenaire.
Ah.
C'est ça. Mais ça ne continue pas beaucoup sur le terrain. Parce que pour que ça vienne sur un terrain, c'est tout un scénario.
Quel est le scénario?
Ah, il faut lui trouver le cadre idéal pour que le gars, celui qui est le propriétaire du chakatu, puisse s'exprimer. Or, et dans les matchs, nous, la police, on arrive par exemple au terrain, on nettoie tous les alentours. On demande à tout le monde de monter dans les gradins. Or, dans les gradins, lui ne peut pas avoir son matériel et opérer.
Ah, parce que le chakatu, c'est un matériel qu'il faut avoir avec
lui. C'est un matériel qu'il faut avoir.
À quoi ça ressemble?
Qui n'est pas grand, hein, qui n'est pas grand. Ça peut tenir dans un sac. Ça peut tenir dans un sac. Mais pour ne pas blasphémer, pour ne pas... Et dévoiler des choses qui demeurent secrètes jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas vous dire comment c'est confectionné.
Ah, mais vous le savez, mais vous pouvez pas me le dire.
Je sais. Il y a tout un parapluie d'ingrédients dedans.
Alors voilà comment ça marche dans le foot. À Cotonou, mais c'est rien du tout. Là, on nous dit des petites choses comme ça pour Yovo, hein, pour le blanc-bec qui arrive. C'est bien plus grave que ça. Ça va bien plus loin que ça. Et je vous le disais, toute la vie, tous les moments de la vie sont ainsi pleins de ces pratiques. Les féticheurs de Nantokpa, le marché central de Cotonou, vous raconte comment, par exemple, si vous avez un problème avec votre patron qui veut vous licencier, bon, votre patron vous virez, oui, le chômage gagne aussi l'Afrique, et ben quoi faire? C'est très simple, vous apportez une mèche de cheveux du patron, s'il fume, vous apportez des mégots, et puis si possible sa photo, hein, vous piquez la photo du patron, vous amenez tout ça au féticheur de Nantokpa, et voilà, pas de problème, il est capable de paralyser à distance chaque fois qu'il voudra vous licencier. Il se met à vous licencier, par exemple, il signe le papier licenciement, paf, hop, il est paralysé. Ça s'appelle lancer un scud. Lancer un scud, oui, comme pendant la guerre du Golfe. Je vais te lancer un scud. Alors, hop, je te jette un sort, comme ça, je le fais pas moi-même. Je vais voir un magicien, un sorcier, un féticheur, selon que j'utilise la partie ensoleillée du vaudou, la partie noire de ces croyances. Et j'envoie un scud, c'est-à-dire que voilà, vous pourrez rien faire, vous serez paralysé. Peut-être je vais vous empoisonner, je vais voir. On plaisante pas du tout, c'est nous les Yovo qui plaisantons avec ça, mais là-bas on ne plaisante pas du tout. Et pour revenir au foot, on nous a dit à plusieurs reprises que les entraîneurs d'équipes françaises ou européennes viennent à Cotonou, et oui, pour essayer d'acheter très cher les pouvoirs de certains féticheurs qui sont donc capables, depuis Cotonou, d'envoyer un scud sur, je sais pas, l'équipe d'Auxerre ou le PSG. Pour l'instant, on assiste à ce match à Cotonou et pendant la mi-temps, essayons de nous approcher de ces sacrés gaillards que sont ces joueurs.
Tu peux trouver un joueur qui n'est pas en train de jouer tout de suite.
Il dit qu'il veut parler.
On va le voir.
C'est notre chose à nous en Afrique. Donc on y croit sincèrement. Bon, on ne peut pas laisser tomber ça.
Ouais.
Même si bon, on se dit maintenant que c'est le travail qui paie. D'un autre côté, on pense aussi que ça peut toutefois dire. C'est aussi un dieu. En général, il y a des balafres qu'on fait au niveau de la poitrine.
On se fait des balafres sur la poitrine.
Oui, des choses
avec
comme
quoi?
Ça. avec une lame, on met des choses dedans, bon.
Des scarifications.
Oui, des scarifications.
Hein? On porte encore des bagues.
Là, tu portes des bagues,
non? Non, moi, c'est pas. Non. Des bagues magiques.
Des bagues magiques.
Des poudres magiques.
Des poudres magiques.
Des poudres pour anéantir l'adversaire. Des cordons à mettre.
À la ceinture.
Des cordons que tu mets à la ceinture.
On met, et le moins, et le moins.
Non, mais pas toi.
On met à la ceinture pour être soulagé, pour que les passes soient précises et tête y soit tendue.
Il y a aussi des par exemple, toujours des fils qu'on met autour du bras.
Oui.
Et là, quand tu transpires, si ta sueur arrive à tomber sur ton adversaire, partout tu passes en duel avec lui, il te laisse passer.
Oh, costaud.
On fait encore comme chewing-gum. Comme chewing-gum, tu mets dans la bouche et l'adversaire qui est là t'oublie. Il va t'oublier.
Il te voit plus.
Il te voit plus. Et tu le dépasses 5 mètres, 10 mètres avant qu'il ne te voit. Là, tu es déjà auprès des buts.
Je suis un goal moi, mais il arrive des matchs où je constate l'avancement. Quand, juste au début de la rencontre, quand il vient vers moi, il me lance des choses dans le filet.
Il te lance quoi?
Il me lance des choses dans le filet, des produits, sinon bon, des poudres parfois
pendant,
dans le filet.
Pendant le match?
Oui. Pendant le match? Au moment où ils font une contre-attaque, lui vient dans la petite surface, il jette ça dedans. Histoire de lui permettre de m'aveugler et puis de marquer des buts, mais ça ne marche pas toujours.
Comment tu te défends, toi, de ça?
La croyance. Si tu crois en ça,
c'est un problème.
C'est terminé. Tu es juste là, abattu psychologiquement. Ne crois pas au fétiche. Joue tes contre-attaques.
Moi, on m'a raconté des histoires de chaussures qu'on emmène chez le charlatan.
Oui. Et quand si tu portes de pareilles chaussures, tu tires, le gardien ne pourra jamais arrêter ça. Même il y a des tiges qu'on met dans les bars.
Des tiges que tu mets dans tes chaussettes?
Non. Des écorces, quoi, des racines d'arbres.
Tu es léger, tu as le poumon.
Avoir le poumon, c'est quoi? Le souffle.
Souffle, tu as le souffle et tu es léger.
Oui. Les petits restent dans la tribune. Les petits là, ils sont dans la tribune. Ici là, c'est la dirigeante seulement. Dans la tribune, là, tu vas trouver les petits.
C'est lui qui nous prépare les gens. C'est lui.
C'est le préparateur. Moi, je suis un kiné. Je suis le soignant de l'équipe. Moi, vraiment, nous sommes en Afrique. Comme c'est inculqué dans le crâne des Africains qu'il y a quelque chose de ce genre, il y a certains qui y croient. Mais à vrai dire, c'est le travail qui compte. Le plus souvent, la plupart des équipes le font à distance, dans l'arrière-cour. Bon, et puis au niveau des joueurs, nous n'avons jamais accepté qu'on les perturbe. Moi, en tant que kiné, on est farouchement opposé, comme il le dit. De toute façon, toucher à l'intégrité du corps humain avant le match, je suis contre. Hey, parce que d'autres font la préparation à partir de là-bas. Donc nous, on n'est jamais d'accord.
Quelle préparation?
Mais vous parlez de fétiche, non?
Qu'est-ce qu'ils font comme préparation exactement?
Oh là là! De toute façon, je ne peux rien dire.
Ah bon?
En tout cas, en tant qu'Africain, il m'est difficile de me prononcer là-dessus.
Ouais, enfin, vous savez, hein, bon, chaque pays a ses secrets. Vous parlez de fétiche, hein. Bon, pour nous, par exemple, le fétiche que nous, on connaît, hein, c'est le beau spectacle pour nous.
Donc, dis-lui la vérité, si ce que tu sais. Hein, c'est pas ça qui va enlever le virus que tu as.
Impression d'une région prospère et forte, aux habitants intelligents, qui pourront peut-être, d'ici pas tellement de temps, donner du fil à retordre aux actuels occupants. Ainsi écrivait Michel Léris en 1931, traversant ce qui était alors le Dahomey, et comme il l'a raconté à travers ce livre qui s'appelle « L'Afrique fantôme ». Les occupants de l'époque, eh ben, c'était les Français, c'était les colonisateurs français, les administrateurs coloniaux. Ce pays, ces pays furent longtemps occupés, diversement occupés. Après l'indépendance, il faut rappeler que le Bénin, qui s'appelle comme ça depuis 1974, a été jusqu'en 1990 ou 11 un pays marxiste-léniniste. On appelait ça le laxisme béniniste, d'ailleurs, à un moment. Mais enfin, il est possible que les occupants aient changé, mais ceux qui sont toujours là et seront là très très longtemps au Bénin et dans cette région, c'est évidemment les dieux. Xangô, chante Angélique Kidjo. On a vu la présence des esprits, des divinités dans un stade. Alors on va essayer de comprendre un peu mieux ce qu'est ce vaudou. Il y a des analogies avec nos religions à nous, c'est pas si éloigné, si mystérieux. Il n'y a pas tradition d'un côté et modernité de l'autre, évidemment. Il y a des hommes qui, sous certains climats, à certains moments, tâchent de donner des explications aux énigmes. L'homme ne se résout pas à ne pas apprivoiser le hasard, à ne pas développer des stratégies avec les mystères, qu'il soit un philosophe, qu'il soit un scientifique, ou bien qu'il soit un croyant. Voilà Eustache Prudencio, qui est un écrivain, qui est un homme très respecté dans son pays, qui était l'intellectuel, et qui nous donne une définition, et c'est pas facile, du vaudou.
Selon les ethnies, vous avez plusieurs significations du vaudou. D'abord, dans le mot vaudou, vous avez le mot dou, qui signifie une espèce d'énigme, quelque chose qu'on ne comprend pas. Quand le bokono, le charlatan, veut vous faire une consultation, vous faire parler l'oracle, comme on dit, le fa, eh bien, il y a certains signes qui se présentent. Il jette ses demi-noix de pomme ou ses corilles, ou il trace de petits traits, et il y a une certaine chorégraphie qui se présente. C'est ça qu'on appelle le dou. Vous, profane, vous ne comprenez pas. Mais lui, il peut vous interpréter ce dou. Mais l'idée de puissance de Dieu, c'est une énigme vraiment à part. Ça sort du commun. Ce doux est à part. C'est ça qu'il faut entendre par vaudou. Vaudou. Donc c'est un esprit qu'on ne comprend pas. Au-dessus de ce vaudou, il y a, bien entendu, un vaudou beaucoup plus fort encore, et qui est comme un souffle, un esprit, et qui n'est pas sur terre. Cet esprit-là, dans le milieu fond, ou dans le milieu mina ou peda, on l'appelle yéwé. Yé, c'est l'ombre, quelque chose qu'on ne saisit pas. Oui, petit, infini, un petit. Et pour parler de Dieu qui est au-dessus de tous les vaudous, eh bien, on allie parfois en disant vaudou Yahweh. Thank you.
du vaudou très difficile à déterminer malgré toutes les recherches qui sont faites depuis longtemps. Le vaudou et cette région de l'Afrique attirent depuis très longtemps ethnologues, chercheurs, anthropologues. C'est une nourriture, c'est une matière première, c'est une matière à réflexion depuis très longtemps pour nous, et on n'arrive pas vraiment à, avec nos façons de vouloir classer, ranger, ordonner, etc., à trouver une origine bien précise au vaudou. Et aussi parce que nous voulons absolument qu'il y ait des traditions. Et pour nous, la tradition, c'est quelque chose d'immuable. Eh bien non, rien n'est plus mobile, rien n'est plus mouvant, rien n'est plus fait de vie et donc de modernité que ces traditions. Cette tradition qu'est en l'occurrence le vaudou. Par exemple, dans la période marxiste du Bénin, eh bien des personnages, je sais pas moi, peut-être Lénine ou Mao Tse-Tung ou je ne sais quel dignitaire de ces époques-là, eh bien faisaient partie du vaudou, tout comme dans le vaudou haïtien. Alors ce sont les figures du christianisme, c'est la Vierge Marie, c'est les apôtres ou les saints qui sont intégrés au vaudou. Il se pourrait bien que nous qui nous posons des problèmes d'assimilation et d'intégration ce soir, en fait, de l'autre côté, que ça marche très bien. C'est nous qui nous faisons intégrer, c'est nous qui nous faisons assimiler, et nos cultures aussi s'intègrent dans le vaudou, au point que on voit par exemple des divinités qui sont très proches des divinités de l'Inde dans ce vaudou. Quand même, très souvent, les chercheurs voient les origines dans la Méditerranée. Oui, il y aurait une origine commune aux mythologies et aux religions grecques puis romaines et aux religions, à cette religion qu'est le vaudou. Et c'est vrai qu'il y a des analogies dans les panthéons, dans les personnages, dans ce polythéisme omniprésent et à échelle humaine. Il n'y a pas cet écrasement par un dieu suprême et rien entre lui et nous. Il y a au contraire un homme qui tâche d'être non pas comme Dieu, mais comme des petits dieux intermédiaires qui se haussent, qui se hissent, et aussi qui, lui, connaissant ses divinités, c'est-à-dire ses vaudous, sait à quel point les vaudous lui confient de temps à autre comment ils aimeraient à redevenir des hommes, des humains, avec leurs défauts. Voilà comment notre ami Eustache Prudencio explique la, entre guillemets, genèse, c'est-à-dire l'origine du vaudou.
Vous avez le soleil, vous avez la lune, la montagne, la mer, la forêt, le vent. Ah, ça paraît bizarre tout cela. À travers toutes ces manifestations, il doit y avoir un esprit fort. Donc, il faut s'attirer la protection de ces esprits forts, ou bien leur demander des faveurs. Donc, il faut nécessairement adorer ces manifestations-là. Ainsi, ils ont commencé à adorer soit la foudre, le tonnerre, les vieux sous, soit la mer, et vous, le torchou, soit la forêt, une forêt dense, sombre, c'est une forêt bizarre, on respecte, une lagune où il y a une lagune poissonneuse, un lac poissonneux, est digne d'adoration. L'arc-en-ciel, on l'adore. Même les jumeaux sont considérés comme des dieux. Tout cela parce que l'Africain, au départ, avait peur. Sa surprise d'être noyé à travers tout cela, ça l'oblige à vouer un culte à toutes ces bizarreries qui l'effraient. Et à travers cela, eh bien, il a trouvé le vaudou, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas saisir et qui est à côté. Thank you.
à Cotonou, Vaudou, dans ce bar Dahomey, qui est le quartier latin de l'Afrique. Ah oui, le quartier latin de l'Afrique, parce que c'est là que le colonisateur français a formé les cadres de l'administration coloniale, d'où l'idée de quartier latin de l'Afrique. Mais c'est vrai que toujours aujourd'hui, une ville comme Cotonou regorge d'intellos, de tchatcheurs et de gens qui ont des explications à beaucoup de choses. Un exemple, Romain Philippe Asokba, toujours pour essayer de piger, de nous faire comprendre ce qu'est le vaudou.
Le vaudou demeure quand même une religion. L'homme africain, ou dans toutes les sociétés où il y a le vaudou, c'est que les membres de ces sociétés, face à la nature, sont émerveillés. Ils sont émerveillés des choses de la nature. On prend l'exemple sur la mer qui bouge, cette vaste eau immense, en perte de vue, qui bout comme sur le feu. Mais où se trouve ce foyer? Où se trouve ce foyer qui donne l'énergie à la mer? On sait que l'eau, quand on la met dans une casserole, sur l'eau, ça bout, et on sait l'énergie, c'est le feu qu'on a fait. Où est ce feu qui fait bouillir, mouvoir la mer? On suppose que c'est peut-être avec le divin. Et lorsqu'on s'approche de la mer, lorsqu'on va rendre, faire des cérémonies dans la mer, c'est qu'on suppose s'approcher, n'est-ce pas, de celui-là que Dieu a chargé d'activer le feu. Et là, on dit, aide-nous, nous voulons ci, nous voulons ça. Et nous savons que c'est seul Dieu qui peut nous donner. Et puisque nous savons qu'il existe, mais que nous ne le voyons pas, à travers toi, mer, que nous voyons bouger, toi, grande, vaste, eau immense, qui bout sur le feu divin, porte bien notre message. Et c'est ainsi que il y a un certain nombre de cérémonies. On peut alors arriver au cours d'une cérémonie à faire le feu. Et on suppose que ce feu qu'on a fait n'est pas le feu ordinaire qu'on a fait à la cuisine pour préparer, pour cuire. Mais c'est l'autre feu invisible qu'on est en train de matérialiser. Et ne peut avoir ce feu que l'initié. Parce que c'est un feu, mais pas comme l'autre. Ne peut accéder à ce feu. Ne peut s'approcher ou essayer de faire bouillir le feu, de l'eau sur ce feu, de faire quoi que ce soit auprès du feu que l'initié. Parce qu'on l'a pas allumé juste à coup d'un déclenchement de briquet ou de bûchette d'allumette. Mais cette bûchette d'allumette, elle a été présentée après un certain nombre de prières par des gens à qui on a fait adopter certaines dispositions. D'où intervient le problème de couleur, de tissu, ou bien de nudité totale, où l'homme, la femme, à un moment, à un lieu donné, ne peut pas s'habiller comme on connaît l'habillement de l'homme. C'est peut-être l'état nature de nudité qu'on a présenté, et on dit maintenant, après la prière, donc les incantations et autres, peut-être face à l'est, ou à l'ouest, ou au nord, d'où les quatre points cardinaux interviennent aussi. C'est tout un dispositif, n'est-ce pas? C'est alors qu'on croit, on est convaincu qu'on s'est effectivement approché de ce feu-là qui fait bouger la mer.
C'était « Là-bas si j'y suis » de Daniel Mermet, reportage Guy Vontil. Il y avait ce soir les techniques Christophe Goudin et Dimitris Capolin, de retour. Réalisation Antoine Chao, assisté de Joël Levert et Koy Nguyen, chef du répondeur Christophe Humbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez plusieurs possibilités. Le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, le fax 01 56 40 41 07, ou bien l'email daniel.mermet@radiofrance.com. Prochain rendez-vous avec Daniel Mermet, c'est bien sûr demain à 17h.
Hommes, femmes, écoutez-moi. Comment rester chez vous et gagner de l'argent sans faire de porte-à-porte ni de vente à domicile? Hommes, femmes, de toute catégorie, c'est une offre adressée à vous. Écrivez dès aujourd'hui même à Christ Europe, 04 BP 1224, Cotonou.